Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de l'actualité théâtrale sur Montpellier et région. Et je suis avec les chroniqueurs de Vendredi Théâtre. Je suis avec l'inénarrable Tito Livio. Bonjour Tito.
Bonjour.
Je suis avec la belle Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Et je suis avec le fringant Christopher.
Bonjour.
Comme je disais, une émission spéciale consacrée au Carré Rondelet. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir M. Avner Pérez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de ce beau théâtre. Et je reçois également M. Olivier Morin. Bonjour.
Bonjour.
Et vous vous occupez plus particulièrement des cafés philo, si je ne me trompe pas.
Oui, enfin, on ne va pas dire les cafés philo, on va dire les
duos
philo.
Les duos philo, pardon.
Que nous avons monté avec Avner.
Alors, le Carré Rondelet, c'est la quatrième saison, si je ne me trompe.
Oui, là, on entame effectivement la quatrième saison. Nous avons inauguré il y a plus de deux semaines, hein, donc nous en sommes déjà au troisième, quatrième spectacle.
C'est vrai qu'il y a quand même un programme assez fourni. Hein.
Voilà, alors c'est ce qu'on dit, toujours.
Et c'est, c'est très bien. Sûr.
Je voudrais peut-être commencer par ce point, parce qu'en définitive, on entend par-ci, par-là que le programme est très fourni. Cela dit, bon, il s'agit au fond de présenter un spectacle par semaine, ce qui, somme toute, est à peu près ce que chaque théâtre ici, à Montpellier ou dans la région, propose, hein, enfin, à ses spectateurs. Donc, en définitive, il n'y a pas pléthore véritablement de spectacles. Hein. Il y a simplement un rythme qui se veut, bien entendu, un peu soutenu, mais qui n'a pas, enfin qui n'est pas quand même, gargantuesque, hein, parce que en définitive, il y a que deux fois, si vous voulez, dans l'année où on déroge un petit peu à la règle du spectacle par semaine, c'est le moment des fêtes. Mmh. Alors, on a une programmation en effet très fournie puisqu'il s'agit de trois spectacles, mais bon, l'option c'est de dire que à cette période-là, il y a quand même beaucoup plus de sorties, beaucoup plus aussi d'intérêt pour le spectacle en général. Et puis, alors une fois, parce qu'on ne maîtrise pas la date, c'est la date anniversaire de Camus, où nous avons effectivement proposé une séance exceptionnelle à 19h, en doublon, on pourrait dire, à un spectacle le soir. Voilà, cela dit, donc voilà, je m'insurge pas, hein, disons que j'entends dire par-ci par-là qu'il y aurait comme ça une boulimie qui serait présentée un peu dans tous les sens. Or, je suis là aujourd'hui, et merci de me donner l'occasion de le faire, je suis là un petit peu pour rectifier le tir.
Moi, ce que j'en disais, c'était un compliment, parce que plus il y a de spectacles, plus on est content.
Je ne parlais pas de divergence. Hein.
Plus on est content. Alors, cette année, si j'ai bien compris, il y a quand même un fil rouge qui va revenir régulièrement.
Oui, alors le fil rouge, oui, existe. Il existe bel et bien parce qu'au fond, ce qui nous intéresse avant tout, et ça, je me retourne du côté de mon partenaire Olivier Morin, hein, qui a aussi lancé ce slogan il y a quelques années avec moi, c'est que nous voulons, nous tenons à donner la priorité au texte. Hein, Olivier disait... Hein,
oui, nous, ce qu'on veut, c'est le texte.
Voilà. Hein, il le disait aussi poétiquement dans tout un texte sur le texte, hein, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et donc, la base, c'est donc le texte, c'est-à-dire, au fond, revisiter pour certains les textes du patrimoine. Mmh. Donner à voir alors des choses construites et déconstruites ou reconstruites autour des grands noms, disons, de la littérature et de l'art dramatique. Alors, c'est pourquoi cette année, nous avons Rabelais, nous avons Vian, nous avons Musset, Marivaux... Césaire, bon, malheureusement, je dirai un mot tout à l'heure parce qu'il y a eu quelques désistements.
Parlez bien devant le micro.
Oui, il y a eu quelques désistements. Et puis donc, voilà, la base, c'est d'abord celle-là. Alors ensuite, les formes, si vous voulez, peuvent diverger. Il peut y avoir des propositions de spectacles sur la base donc, du patrimoine. Et ensuite, la forme peut prendre... disons, une option qui est contemporaine, qui est même déconstruite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous tenons véritablement à ce que le texte soit là et qu'il soit entendu par les plus jeunes comme par le plus grand public.
Alors, dans les classiques, vous en avez dit certains. Il y a Camus, Césaire s'est reporté, si je ne me trompe.
Oui, c'est ça, oui.
Marivaux, Musset, que tout le monde a vu ici, qui était un très beau spectacle. Artaud, Van Gogh, Rabelais, Alain Fournier, Rostand, Maupassant. Et dans les plus contemporains, il y a aussi Bobby Lapointe, Lagarce, Garcia, Brassens, Dickengarn, Gary Ajar, Gainsbourg. Voilà, quel beau programme. Quel beau programme.
Et il y a aussi Goldoni.
On ne t'entend pas.
Oui. Il y a en effet, oui, il y a
Goldoni,
en effet
Goldoni,
oui. Il y a en effet Goldoni, et d'ailleurs c'est vraiment une très belle entreprise, parce qu'il s'agit d'une troupe d'ici, de Montpellier, dont certains sortent de l'école de théâtre de la Compagnie Maritime, et qui a fait un très beau travail, disons, justement, de mise en adéquation avec des formes un peu contemporaines du texte magnifique donc de Goldoni. Voilà, le Molière italien.
Et quand je disais qu'il y avait un fil rouge, il y en a un qui va arriver peut-être plutôt en deuxième partie de saison, autour du jasmin et de l'œillet.
Alors voilà, donc là, oui, puisque nous sommes aux axes, hein, j'ai parlé du texte, donc ça, c'est le fond, si vous voulez. Non pas de la boutique, mais c'est le fond de notre, en tout cas bon, de nos options. Hein. On considère que vraiment il faut partir de là. Mais il y a aussi, oui, effectivement, une série d'hommages. Alors hommage aux auteurs, mais hommage aussi à deux pays qui me sont chers. Et cette année, je voulais vraiment marquer les choses pour deux raisons. D'abord parce que c'est le 40e anniversaire de la révolution des œillets au Portugal. Et que je crois que ça mérite qu'on reprenne un petit peu, qu'on redonne aussi au public, ignorant peut-être de ce qui s'est passé il y a quelques, donc 40 ans au Portugal, de comment aussi, je crois que c'est intéressant l'expérience portugaise, parce que ça montre aussi que des révolutions peuvent se faire aussi avec l'œillet à la main, je dirais, et sans disons, les dérives que connaissent certaines révolutions actuelles. Et nous l'avons mis en parallèle avec la Tunisie. Alors j'ai dit, bon, c'est la Tunisie m'est chère, je crois qu'on le sait, j'y suis né, et j'y ai passé presque le début de mon adolescence. Et donc aussi pour faire ce parallèle, parce que je considère aussi que la Tunisie a quelque chose à voir avec le Portugal, dans le sens où justement les choses ne se posent pas comme les dérives qu'on peut voir ailleurs en Tunisie, malgré toutes les difficultés, malgré aussi les crispations. Et les,
je le pense aussi.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas ces violences qu'on peut voir ailleurs. Et il y a le jasmin. Si on a l'œillet au Portugal, on a le jasmin en Tunisie. Donc ces deux axes, ces deux hommages hein, à ces deux pays, ça se présentera sous la forme de pièces de théâtre, bien entendu. Donc j'ai l'intention d'inviter au moins une troupe de chaque pays. Donc nous travaillons déjà avec Sousse en Tunisie, un spectacle qui a été monté par Cécile Atlan, qui l'a mise en scène à Sousse l'année dernière. Et qui donc va inviter sa troupe chez nous. Hein. Donc ce sera une première. Hein. Il y aura aussi une présentation qui sera faite dans le cadre de l'université, Paul Valéry, avec cette troupe de Sousse. Donc une création sur un texte d'ailleurs d'un auteur, d'une auteure, hein, on dit ça comme ça, d'une auteure de Montpellier, Dominique Rioco. Et Rieco, voilà, difficile. Hein. Voilà. Et donc, avec elle, avec Dominique, comme avec Cécile, comme avec la troupe donc, des Tunisiens de Sousse, on présentera cette création. Et du côté du Portugal, c'est une jeune troupe que je suis en train d'approcher, dont j'ai vu le spectacle à Avignon cet été, et qui a présenté un très beau travail sur des textes de Krauss, de Karl Krauss. Voilà. Et qui viendra, bon, c'est une très jeune troupe aussi, hein, et qui donc viendrait dans le courant du mois d'avril, puisque au fond, bon, on a essayé quand même de garder la symbolique du mois d'avril pour le Portugal.
Et on a deux Portugais dans le studio, il faut en profiter. Tito, tu peux nous dire quelque chose sur cette révolution des œillets, mais au plus, Christopher connaît très bien aussi le sujet.
Bah, Christopher est un spécialiste du sujet. Moi, je l'ai vécu, lui, il l'a étudié. Donc, commence-toi.
Moi, je commence. la révolution, elle survient le 25 avril 1974. C'est une révolution qui a été faite par les capitaines. Donc, une révolution qui vient d'un ras-le-bol d'une dictature qui était déjà moribonde quand la révolution survient, d'un ras-le-bol des guerres coloniales. et une révolution qui se passe d'une manière démocratique, d'une manière pacifique, je voudrais dire, avec ce symbole de l'œillet qui met fin à 40 ans de dictature quand même. Et c'est pour ça que je ne peux qu'être enthousiaste qu'on y rende hommage, puisque je pense que c'est une révolution plus qu'exemplaire, et il est temps encore de remettre un jour ces mots de liberté, de démocratie, particulièrement en ce moment.
Tito.
Moi, je l'ai vécu, j'ai le souvenir surtout d'un très grand débat public qu'il y a eu, parfois dans les rues, parfois à coups de poing entre nous aussi, c'est la vérité, parce que dans ces choses-là, un peu comme le après 68, une fois que les CRS sont partis, on s'est quand même un peu mal foutu sur la gueule, hein, de temps en temps, quand on n'était pas d'accord. Et évidemment, alors, il y avait trois modèles de société, grosso modo, qui étaient en jeu, et chacun s'est rangé furieusement dans un camp. Mais on s'en est sorti par le débat d'idées, c'est ça qui est bien. Moi, je pense, j'ai un peu d'espoir, même si je ne suis pas tunisien et je ne suis pas toujours là en train de regarder ou je ne suis même pas allé, mais j'ai un peu cet espoir pour la Tunisie, c'est-à-dire qu'il y a plus un débat d'idées et des gens qui s'accrochent au pouvoir, mais chez nous aussi, il y a eu des gens qui sont accrochés au pouvoir, il ne faut pas croire, hein. Moi, j'étais en cabale parce que... voilà. Qu'on racontait comme ça rapidement, les choses ont l'air tout rose, mais quand on les vit, il y a des moments où ce n'est pas tout à fait très marrant. Et voilà, et en Tunisie, j'ai un peu cette impression aussi. Que les gens se laissent pas faire par les gens qui ont pris le pouvoir. Donc, il y a quand même exactement, là, il n'y en a pas trois, il y en a deux conceptions du monde, conceptions de l'association, de la société qui s'affrontent. Et les gens vont au charbon, dans la rue, etc., pour les défendre. Et je trouve ça très salutaire. On aurait bien besoin de ça en Europe, tiens. Qu'on aille au charbon, mais pour les idées, pour des modèles de société. Parce qu'en ce moment, il n'y a qu'une qui propose un modèle de société. Tout le monde sait lequel c'est-à-dire le fascisme. Et les autres sont là en train de faire de la comptabilité.
On va faire une petite pause musicale avec Madre Deus. Vendredi Théâtre sur Divergence FM, je suis toujours avec M. Avner Pérez et M. Olivier Morin pour nous parler de la programmation du Carré Rondelet. Et Gradia, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, alors moi je ne suis pas portugaise, nobody is perfect, mais le Portugal est un pays que j'adore. J'y suis allée par deux fois. La première fois c'était en 1976. J'y ai passé 15 jours. J'ai passé la frontière à Bragança. Je venais donc de l'Espagne fasciste, où il y avait un climat terrifiant. J'étais avec mon frère et mon ex-mari, et lorsque nous sommes arrivés à la frontière, on a été accueillis par des gens qui étaient joyeux, qui avaient les cheveux longs, la barbe, qui étaient tout à fait dans la mouvance des années 70. Et puis, on a eu un contact avec la population absolument magnifique. On a été invités partout, on discutait beaucoup. Et effectivement, dans les rues, il y avait des attroupements sur les places, parce qu'il y a beaucoup de belles places dans toutes les villes du Portugal. Il y avait des attroupements de gens qui discutaient entre eux. Et encore à cette époque-là, tout au moins, il y avait une grande, grande joie dans les rues du Portugal. Moi, c'est un pays que j'adore. J'y suis retournée en 2008 et je le trouve un peu changé quand même. Ça m'a un peu déçue, quoi. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est partout pareil en Europe, je veux dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
On parle donc de la programmation du Carré Rondelet. On n'a pas encore parlé avec M. Olivier Morin sur ce que vous faites au Carré Rondelet avec M. Pérez. Vous faites donc les duophilo. Qu'est-ce que c'est que ces duophilos ?
Alors, entre autres, en fait, je suis poète, auteur de textes poétiques qui sont mis en musique avec un pianiste. Ensuite, on collabore ensemble sur les créations théâtrales d'Avener. L'année dernière, on a monté, pour le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, on a monté Jean-Jacques et le féminin pluriel, où j'incarnais un Jean-Jacques Rousseau sur le tard, qui se confessait. Et puis, nous avons lancé l'année dernière cette idée des duophilo-débat-filés. Donc, rien que dans le titre, on peut imaginer que tout ça est à la fois sérieux, mais peut-être aussi léger, voire poétique. Donc, nous avons monté deux duos. Le premier sur l'identité, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et un deuxième...
C'est Louise de Villemorin, ça.
Pardon. Et un deuxième sur la foi, la croyance, la religion. Un spectacle culte, évidemment. Ma foi, comme c'est spirituel. Avener développe la pensée des grands philosophes au cours de l'histoire sur chacun de ces thèmes. Et moi, je fais des incursions, des digressions poétiques. Et à nous deux, on allège ce débat si sérieux, au fond.
On pourra avoir peut-être un exemple de vos chroniques, si c'est possible.
Alors, les chroniques polypolitiques, c'est un peu autre chose. Ça fera l'objet d'un spectacle que je jouerai au Carré Rondelet avec Emmanuel Valeur au piano. Et nous mettrons en scène quelques chroniques. Donc, je vous en livre une. Tout à l'heure, on parlait de conception, des conceptions de la démocratie. Moi, je vais vous parler d'une autre forme de conception. Mariage pour tous ? Non, mais si. C'est à n'y rien comprendre. Comment se fait-il que les chrétiens, ceux-là même qui se revendiquent du Christ, se retrouvent en première ligne pour refuser l'idée d'une double paternité ? Si l'on interroge ces mêmes chrétiens sur l'origine du Christ, ils vous répondent qu'il est le fils de Dieu, mais aussi le fils adoptif de Joseph, compagnon de Marie et mère de celui-ci. Ils sont d'accord pour reconnaître la double filiation au profit de leur idole, mais la refusent pour les enfants d'aujourd'hui, au prétexte, semble-t-il, des difficultés à s'inscrire correctement et durablement dans la vie. Jésus, fils de Dieu et de Joseph, s'est pourtant inscrit durablement dans l'histoire, son nom résonnant à nos oreilles 2000 ans plus tard et servant même de paravent à ceux qui refusent les changements de direction du dit vent. Bien entendu, on ne manquera pas de nous rappeler qu'il mourut jeune, les bras en croix, mais n'oublions pas qu'il bénéficia d'une deuxième chance au jeu de la vie et de la mort. Quant à Joseph, on dira de lui qu'il n'était que le père adoptif, mais je vous arrête. Connaissant moi-même très bien la situation et revendiquant haut et fort la paternité au-delà du biologique. Jésus mourut jeune, mais il eut le temps et le courage d'inventer une nouvelle voie et de rassembler autour de lui, et pour longtemps, les hommes et les femmes prêts à accepter la différence. À ceux qui en refusent l'idée, rappelons que les premiers chrétiens, dont je ne suis pas, acceptèrent un enfant d'une mère et de deux pères, dont l'un n'apparut pas à tout le monde. Aujourd'hui, ces nouveaux pères sont bien de chair et d'os et ne se font pas prier pour endosser leurs responsabilités. Faisons donc confiance à ces nouveaux fiancés. Confiance et fiancé, ces deux mots ont la même origine, ils viennent de fides, la foi, pour relier les hommes entre eux, relier, religarer, c'est l'objet même de la religion. Alors, le mariage pour tous, non, non, mais si.
Merci, merci. Vous nous en aurez une autre tout à l'heure. On disait tout à l'heure que c'était aussi une année en hommage à Camus, c'est un anniversaire autour de Camus. Il y a deux spectacles qui sont prévus dans la programmation.
Oui. Là, Camus aussi m'est très cher, pour des raisons d'ailleurs évidentes, puisque j'ai parlé de ma Tunisie natale, l'Algérie n'étant pas loin. Camus était un phare, disons, de la littérature et de la pensée, enfin dans tout le Maghreb, y compris en Tunisie. D'ailleurs, mes parents étaient inspirés par cela, puisque j'ai pour deuxième prénom Camus moi-même. Voilà. Oui, je voulais juste ajouter une petite chose à propos de Duo Philo avant de parler de Camus. Hein, donc nous préparons un Duo Philo en principe sur le désir bientôt, et peut-être quelque chose autour de la communication, l'échange, les échanges. Voilà. Donc l'aventure se poursuit, hein, et on ne va pas s'arrêter à ces deux thèmes. Hein, voilà. Alors pour en revenir à Camus, oui, alors d'abord L'étranger, parce que je l'ai monté déjà depuis plus de 6 ans. Je l'avais monté à l'époque, oui, au Théâtre Tabar.
Oui.
Et avec Pierre-Jean, c'est toujours Pierre-Jean qui incarnera Meursault. Et enfin, disons qu'il endossera le texte à la première personne de Meursault. Et avec donc toujours ma mise en scène qui n'a pas trop changé hein, depuis 6-7 ans, même si on a par-ci par-là rajouté de petites choses. Pour le reste, oui, c'est une soirée Camus que nous proposons, je l'ai dit tout à l'heure, le soir anniversaire donc, de Camus, le 7 novembre, pour deux représentations, donc le 6 et le 7. Le 7, je crois que c'est à 19h. Et alors, ça consiste au fond à voilà, justement mélanger un petit peu cette image que j'ai moi inscrite, disons, dans ma propre biographie de Camus, c'est-à-dire cet aspect oriental, l'aspect oriental de Camus. Et pour cela, j'ai demandé à Pierre-Luc Bensoussan et à Mohamed Zefrati d'accompagner au fond des textes phares de Camus. De les accompagner au rythme et au son et à la musicalité orientale. Et donc ces deux soirées seront des soirées à la fois musicales, poétiques, et où nous allons lire des extraits notamment de textes assez forts, comme les textes de noces, l'été, mais également des textes qu'on peut maintenant aujourd'hui qualifier d'autobiographiques, des extraits du premier homme.
Et Olivier, vous êtes dans le projet, si je ne me trompe.
Pardon ?
Vous êtes dans le projet Camus.
Oui, oui, oui. Donc nous serons quelques-uns. Donc Carole Ventura qui va donner des extraits du premier homme. Cécile Atlan, Avner Pérez et moi-même qui allons livrer quelques extraits donc de Noces et de l'été. Si vous voulez, je peux vous
en donner. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Quelque chose de.
On adore, nous, quand il y a des extraits.
Bon. Il faut beaucoup de temps pour aller à Djémila. Ce n'est pas une ville où l'on s'arrête et que l'on dépasse. Elle ne mêle nulle part et n'ouvre sur aucun pays. C'est un lieu d'où l'on revient. La ville morte est au terme d'une longue route enlacée qui semble la promettre à chacun de ses tournants et paraît d'autant plus longue. Lorsque surgit enfin sur un plateau aux couleurs éteintes, enfoncé entre les hautes montagnes, son squelette jaunâtre comme une forêt d'ossements. Djémila figure alors le symbole de cette leçon d'amour et de patience qui peut seule nous conduire au cœur battant du monde. Là, parmi quelques arbres, de l'herbe sèche, elle se défend de toutes ces montagnes
et de toutes ses pierres, contre l'admiration vulgaire, le pittoresque et le jeu de l'espoir. Voilà.
Merci beaucoup. Ben, on va faire une petite pause musicale à nouveau avec un poète portugais. Une poésie de Fernando Pessoa chantée par Amélia Mouge. Amélia Mouge sur Divergence FM avec un poème de Fernando Pessoa. Amélia Mouge, tu la connais en plus, Tito, toi. Tu l'as rencontrée au Portugal.
Oui, ça fait des années qu'on essaie de la faire revenir à Montpellier.
Elle était venue une fois à Montpellier, Salmolière, il y a quelques
Salmolière,
années.
Salmolière, c'était une toute beauté. C'est une très grande dame. Hein. Et elle travaille avec de très grands musiciens. C'est ça aussi la difficulté, parce qu'elle travaille avec des gens de très très haut niveau. Des ethnomusiciens qui font vraiment ce que vous avez entendu, c'est vraiment du très bon travail. Moi, je déteste le folklore plan-plan, j'adore ce genre de choses. Aller chercher dans la musique traditionnelle quelque chose qui inspire et qui fait... Voilà.
Voilà, je rappelle que nous sommes toujours avec M. Avner Pérez et Olivier Morin pour nous parler de la saison au Carré Rondelet. Donc on disait qu'il y avait des manifestations, des spectacles prévus autour du Portugal, autour des 40 ans de la révolution des œillets. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses de prévues dans cet état d'esprit autour du Portugal ?
Oui, donc j'ai cité tout à l'heure les deux spectacles qui viendront donc à la fois du Portugal et de Tunisie, de Sousse. Mais il y a déjà, alors dès le mois de février, donc nous lançons nous présentons la création de Nour Jlassi, metteur en scène et comédien, sur le texte de Mustapha Ben Fodil.
Ah oui.
Donc Clandestinopolis, voilà. Alors, ils sont en phase, disons, de création. Hein. Ils ont commencé. D'ailleurs, on leur apporte un soutien, puisqu'ils viendront en semi-résidence chez nous pour essayer de finaliser ce projet qui est très intéressant, qu'ils avaient déjà un petit peu présenté à Paris, enfin que Nour avait présenté à Paris avec une autre équipe. Et là, il a rassemblé, au fond, des comédiens de la région pour présenter ce travail. Alors, c'est un texte, bien entendu, qui parle qui est un texte d'un auteur algérien, mais qui, au fond, pointe des questions qui touchent à toutes ces révolutions arabes, et par métaphore, par situation, disons, interposée, je pense qu'on retrouvera le climat et les interrogations d'aujourd'hui en Tunisie. Voilà, et donc c'est un projet très fort. Nour est une personne qui a une grande expérience de la scène, et je suis ravi de pouvoir travailler avec lui. Bon, alors, de surcroît, il se trouve qu'il a aussi une sensibilité portugaise. Je n'en dirai pas plus, puisque nous sommes à l'antenne. Et là, je crois que je suis comblé, et ça apportera au public, au fond, ces deux aspects-là. Voilà. Alors, autour du Portugal, il y aura aussi donc de la musique. Hein, on parlait des groupes de musique. Il y aura également un humoriste qui est déjà passé chez nous l'an dernier, que je vais réinviter. Et du côté de la Tunisie, c'est la même chose. Alors, ce sera agrémenté aussi de conférences et de discussions. Notamment, donc, j'envisage d'inviter Janine Gdalia, qui a écrit un excellent livre sur les femmes de Tunisie. Où elle est allée sur place interroger souvent des intellectuels et des gens de culture en Tunisie, mais aussi des femmes qui n'ont pas d'étiquette d'intellectuel. Et elle a essayé, au fond, de mesurer, de prendre un peu la température du féminin dans tous ces troubles politiques qui traversent la Tunisie aujourd'hui.
Il y avait un autre spectacle, on ne pourra pas parler de tout. Hein. Il y a un autre spectacle qui m'interpellait, puis je crois que Christopher aussi, c'est le spectacle autour de Arto Van Gogh.
Oui, alors c'est étonnant. Ce spectacle, je l'ai vu à Avignon. Alors il se trouve qu'en plus, le comédien en fait a des acquaintances avec Montpellier. Il a même de la famille à Montpellier, puisque j'ai rencontré récemment une personne qui est au Théâtre de la Vista et qui a été aussi ravie et très émue de savoir qu'il allait venir chez nous. Alors ce spectacle est étonnant parce que d'abord, lorsque je suis allé le voir à Avignon, j'ai cru véritablement voir Arto devant moi. Alors c'est physique, mais c'est aussi cette espèce d'habitation du comédien. Il est véritablement habité par le texte et il est habité peut-être qu'on peut dire par l'univers d'Arto lui-même. Alors c'est bien sûr le texte concernant Van Gogh, c'est le suicidé de la société. Le comédien, donc, c'est Patrick Guindolé, qui est étonnant et qui, donc, dans ce travail qui a l'air d'aller de soi pour lui, parce qu'il est dans une sorte de naturalité par rapport à ce texte. Alors, on le sait, ce texte dénonce la psychiatrie. Il dénonce aussi, toutes les normes et les codes sociaux qui ont empêché à la fois Van Gogh et Arto lui-même de pouvoir exprimer leur créativité. C'est un texte violent, hein, c'est un texte qui dénonce, mais Patrick Guindolé le fait avec une telle grâce et tension à la fois que j'ai été ébloui. Il a accepté de venir ici. On le présente pour 4 représentations donc, chez nous. Et je pense qu'il y aura une suite parce que c'est vraiment un spectacle fascinant.
Le texte, d'ailleurs, est tout à fait fascinant. Oui. Très violent aussi. Oui. Alors, j'ai remarqué aussi un autre spectacle qui me semble tout à fait intéressant, qui va être joué 2 fois dans la région avec 2 versions différentes. Ça risque d'être intéressant. C'est Goya et Borges de Rodrigo Garcia.
Oui, alors...
Je suis obligé de le dire parce que je l'ai appris hier que malheureusement celui-ci aussi sera reporté.
Ah.
Mais il est reporté hein, parce que véritablement il a encore des, enfin il a des soucis. Il se trouve à Bordeaux, difficulté d'allier en fait son travail parce qu'il est aussi animateur d'ateliers théâtre à Bordeaux dans sa compagnie. Il a de très grosses difficultés en ce moment et de surcroît des difficultés personnelles. Et donc là, il m'a demandé de reporter. J'ai beaucoup insisté, mais ça n'a pas été possible. Donc ça reviendra. Mais évidemment, oui, c'est un auteur, alors, comme on dit aujourd'hui, incontournable aussi, Rodrigo Garcia. C'était le premier spectacle au fond de Rodrigo Garcia que je présentais au Carré Rondelet. J'étais très fier de le faire. Alors j'en reparlerai au moment opportun. C'est sûr que ça pouvait entrer aussi dans toutes ces clins d'œil qu'on pouvait faire, disons, aux pays qui ont essayé de se transformer. Et on sait que Borges... Alors c'est aussi grinçant vis-à-vis de Borges, hein, dans ce texte-là.
C'est vrai que Borges a eu une attitude quand même un tout petit peu...
Ambiguë.
Ambiguë vis-à-vis de la dictature dans son pays.
Voilà, ça, il n'en demeure pas moins l'auteur génial et le créateur qu'on connaît. Oui.
On va peut-être demander à Olivier s'il veut nous donner une deuxième chronique, tiens, s'il veut bien.
Oui, il veut bien, oui, bon, je rebondis, on parlait de métaphores, je vous parle de poésie et de politique. Mandela Invictus, la poésie pour vivre et mourir. Celui qui est resté debout. Celui qui n'a ni gémi ni pleuré vient de s'asseoir. Il va bientôt se poser et se coucher à jamais. Nelson Mandela doit la vie à son courage et au poème de William Ernest Henley, qui perdit une jambe à 25 ans et qui, à cloche-pied, près de 30 ans, les dents serrées, résista à la douleur. Il faut lire et relire encore ce texte d'un jeune poète tuberculeux qui décida de son destin et de son invincibilité. La poésie enflamme et suivent les bohèmes, celle des Arthurs et autres vaclaves qui affrontèrent les hommes et les institutions à coups de salves et de verbes incendiaires. Ils se gavèrent de la musique des mots pour mieux les savourer, les retournant parfois comme autant de coups droits dans l'ordre débordé. Ainsi sont les textes de résistance, les mots pour la vie, et la vie pour les mots. Ainsi fut le destin d'un fauteur de troubles. C'est ce que signifie en Orsa, son prénom, le prénom de Mandela, qui finit en réconciliateur et reçut la visite d'une colombe un jour de paix 1993. 18 ans, 20 ans, 27 ans, à se réciter les mots du combat contre la douleur. Ne pas plier. Ne pas lâcher, la poésie comme un bouclier de rêve, comme une arme invisible, pour rester le capitaine de son âme. Il est doux de partir quand on a tenu bon, sur un pied ou sur deux, c'est comme en poésie.
On va rester dans la poésie, on va faire une petite pause musicale avec Bevinda qui va nous chanter un poème d'Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez qui n'était pas seulement la très très grande chanteuse que l'on connaît, mais qui était aussi une grande poétesse. Bevinda.
The.
Bévinda sur Divergence FM, sur un poème de Amalia Rodriguez, la grande Amalia Rodriguez. Et nous parlons toujours de l'actualité du Carré Rondelet, la programmation du Carré Rondelet. Je suis toujours avec M. Avner Pérez et Olivier Morin pour nous parler des programmes de ce théâtre. Justement, on parlait un peu hors antenne du travail des petits théâtres vis-à-vis des troupes locales. C'est vrai que c'est aussi très important qu'il existe des petits théâtres pour faire vivre aussi ces troupes locales.
Oui, bah alors justement, enfin nous, politique, c'est, on l'a répété plusieurs fois, hein, c'est d'être dans l'éclectisme, et éclectisme même dans la façon de programmer nos spectacles. Alors, nous ne faisons pas qu'aller faire notre marché à Avignon, je le dis pour certains qui pensent que c'est à peu près ce que nous faisons. Nous, il y a plus de 50% de la programmation ici qui concerne donc des troupes locales, de jeunes troupes, à qui on donne la possibilité, enfin on donne le galop d'essai, enfin qui leur permettra ensuite de faire peut-être une carrière
à la fois régional et peut-être même plus loin national. Et donc cette année, oui, on a cité Goldoni, c'est une troupe, une jeune troupe locale. On a cité Nour, Jelassi qui est ici et qui fait ce travail merveilleux. Il y a également Benoît Chazal qui est lié à Montpellier et qui nous a présenté donc le Marivaux et le Musset. Il y a
nos très beau spectacle.
Oui, que vous avez reçu ici. Il y a Pascal Rouquette qui est une immense conteuse de la région et qui va nous présenter un travail autour du Grand Maulne de Fournier, dont c'est d'ailleurs aussi l'anniversaire. Il y a également ce spectacle de Jean-Luc Lagarce par la compagnie du Chien au Croisement, qui est aussi une jeune troupe très douée hein, et qui avait réuni beaucoup de spectateurs l'année dernière, à qui je redonne la possibilité en résidence chez nous de présenter à la fois les règles du savoir-vivre dans la société moderne, mais également un autre texte qui viendront travailler très prochainement chez nous. Voilà, donc nous ne faisons pas qu'aller faire notre marché à Avignon. Nous aidons, nous soutenons et nous faisons en sorte, au fond, de faire découvrir toute ensemble de création et de créativité à Montpellier et dans la région.
Alors je tiens à préciser, nous, qu'à Divergence FM, à Vendredi Théâtre, nous allons indifféremment dans les grands théâtres, les moyens théâtres et les petits théâtres. Et que très souvent, dans les petits théâtres, comme représentants des médias, il n'y a que nous.
Oui,
c'est
oui,
vrai, je le remarque très très souvent. Tito, tu voulais rajouter quelque chose sur les petits théâtres?
Moi, je viens aux subventions. Je trouve que déjà subventionné, soyons clairs, pour nous, bon, c'est notre critère, mais on a à peu près trois théâtres privés qu'on suit, ils sont connus. Et donc, on a un critère. Moi, je veux bien que les pouvoirs publics en aient un, puisqu'on ne peut pas subventionner tout le monde. Il y en a, en plus, qui n'en ont pas besoin. Donc, très bien. Mais si on se tenait à peu près à notre critère, qui est grosso modo le critère des pouvoirs publics, hein, pour être clair, il y aurait trois théâtres à subventionner à Montpellier, qui sont des petites structures. C'est quand même pas la mort. Hein. Or, ils sont très, très mal subventionnés, voire pas du tout. Et ça, c'est scandaleux. C'est, moi, je sais bien que les gens... Alors, nous sommes 6 personnes ici autour de la table. Imaginons que nous étions demain sur une liste électorale, qu'on était élus. Qu'est-ce qu'on nous donnerait? Il y a fort à parier qu'on nous donnerait les cimetières. Normalement, c'est ce qu'on donne aux petits nouveaux, parce que, bon, personne ne veut. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un attaché territorial qui va nous expliquer le métier. Alors, quand on fait... on peut être un vieil élu, etc., et on prend la culture. C'est pas forcément sa spécialité. C'est pas un reproche. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des attachés territoriaux qui vont lui dire « Bon, bah, il faut faire ça et ça et ça et ça. » Donc, on est... Mais derrière ça, il faut quand même que ce monsieur, cette dame... et une vision politique de la chose. Hein? C'est son rôle. Personne ne lui demande d'être spécialiste de théâtre, cinéma, tout en même temps, mais d'avoir une vision politique. C'est à quoi ça sert l'élu. Sinon, on ferait tout avec des attachés territoriaux, on n'aurait pas besoin d'élus. Voilà.
Absolument. Il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. Est-ce que vous pouvez nous parler des prochains spectacles qui vont arriver à l'affiche au Carré Rondelet?
Oui, je vais en parler, mais je voulais juste citer Terzieff qui disait « Le théâtre, hein, c'est ceci et cela », c'est-à-dire à la fois les petites structures, c'est le théâtre privé, mais c'est aussi le théâtre public. C'est ceci et cela, et je crois qu'il faut tenir les deux bouts. Voilà. Quant à la programmation qui arrive... écoutez, en ce moment, nous avons en alternance, donc, alors encore un chanteur comédien de la région, hein, je tiens à le préciser, Anthony Alborghetti, qui nous présente quelque chose de très original. Il a mis en miroir, en parallèle, donc, les chansons de Brassens et de Dick Annegarn. Et ça fonctionne très bien. Hein, donc la première a eu lieu hier. Et il viendra donc en alternance avec Salvatore, qui est un ami à lui, alors comme son nom l'indique, d'origine italienne, et qui présente... alors ça n'est pas, je suis très gêné pour le dire, parce que ça n'est pas un one-man show. C'est un travail sur les mots, sur le texte, encore une fois, hein, je tourne vers Olivier. Nous sommes toujours dans cette optique-là. Et il joue sur les mots, il présente alors un spectacle qui s'intitule... alors lui qui a l'air d'être enfin, intitulé de One Man Show, c'est Les Femmes, le chocolat et moi. Cela dit, c'est très fin, c'est très travaillé, c'est très ciselé. Et je pense que voilà, on peut présenter ce type de spectacle dans la mesure où nous ne sommes pas dans la simple lignée d'un théâtre comique qui parfois prend des allures de bas-ventre.
Alors cette saison, on a assisté à la présentation de saison, c'était il y a quelques semaines, et c'était quand même blindé, la salle était blindée pour cette présentation de saison.
Oui, on a actuellement, enfin, il y a un public maintenant qui s'est constitué de fidèles, alors par des réseaux divers, hein. Donc on touche beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de publics étudiants, nous travaillons avec le CROUS, d'ailleurs nous étions représentés récemment, je tiens à les remercier parce qu'ils nous sont fidèles, hein. Nous étions représentés à cette réunion, je crois que c'était la deuxième hein, du CROUS, où tous les théâtres, petits comme grands d'ailleurs, étaient à la même table. Et les étudiants ont répondu nombreux. Il y a aussi des réseaux, enfin par les réseaux sociaux, par aussi des groupements de spectateurs. On travaille aussi avec l'association des chômeurs, à qui on fait un tarif symbolique hein, pour pouvoir donc venir assister à nos spectacles, etc. Voilà. Après, il y a toujours la frontière, si vous voulez, la limite, comme le disait Tito tout à l'heure, c'est que bon, quand il n'y a pas le nerf de la guerre, on est un peu limité. Hein.
On en sait quelque chose.
C'est dur pour tout le monde. Voilà, donc c'était la présentation de la demi-saison, en fait, parce que le programme s'arrête au mois de février. Donc il y aura une deuxième présentation pour la deuxième saison, la deuxième mi-saison.
Oui, qui sera peut-être plus courte, qui se fera peut-être sous la forme voilà, poétique peut-être et littéraire, hein, mais on ne refera pas un grand messe. Hein.
Bah, de toute façon, vous reviendrez nous voir à Divergence à Vendredi Théâtre pour
sans aucun doute
de cette deuxième partie de programmation.
Absolument, et on vous remercie.
Hein. Est-ce que vous auriez un souhait pour l'avenir du Carré Rondelet, un souhait émettre?
Bah déjà qu'on entende un petit peu tout ce que je viens de dire, oui. Et puis que voilà qu'on développe de plus en plus. Alors peut-être oui, actuellement il existe un cours de théâtre, mais ce serait important, intéressant, et puis ça contribuerait à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à pouvoir soutenir des troupes locales, à avoir peut-être un local supplémentaire qui permettrait uniquement le travail sur justement la résidence des compagnies, parce qu'on est submergé. Alors,
ça, j'aurais un scoop, mais malheureusement, mon champion n'a pas été désigné. Mais j'avais parlé avec Michael Delafosse, il avait pensé, il y a des locaux, le AI, qu'il avait pensé à cet effet, d'énormes hangars qu'on pourrait découper, insonoriser, faire des lieux de répétition pour des musiciens, pour des comédiens, etc. Espérons que son idée passera.
Voilà, mais il me reste à remercier nos invités, Olivier et M. Abner Pérez, de nous avoir accompagnés pour ce Vendredi Théâtre. Il me reste à remercier les chroniqueurs, Grazia, Christopher et Tito, et à remercier Gilles, sinon il va me gronder, à la technique. Voilà, on va se quitter avec le même poème d'Amalia Rodriguez qu'on a entendu tout à l'heure dans la version de Bevinda. On va l'entendre maintenant dans la version de Maria Teresa. Voilà, Vendredi Théâtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Ben, rendez-vous la semaine prochaine. Dentro de mim.
Considero que dia hei de morrer no desespero que eu tenho de te não ver. Estendo o meu shine, estendo o meu shine no chão. Estendo o meu chai e deixo-me adormecer. Se eu soubesse que morrendo tu me havias de chorar. Alegria me deixaria matar.